7. 20 minutes plus tard, ils se tenaient tous les deux sur le seuil de la porte de la cuisine, à regarder Patrick Danville ingurgiter un bol de soupe. La moitié au moins se déversait sur la chemise grise du garçon, mais Susanna ne s'en inquiétait pas. Il restait de la soupe, et il y avait toute une cargaison de chemises dans l'unique chambre de la maisonnette. Sans parler du gros anorak de Joe Collins, dont elle pensait vêtir Patrick pour quitter les lieux. Pour ce qui était des restes de dents de l'eau, Joe Collins qui fut, il les avait enveloppés dans 3 couvertures et balancés sans cérémonie dans la neige. Susanna prit la parole. Dents de l'eau était un vampire se nourrissant d'émotions au lieu de sang. Patrick, ici. Patrick était sa vache à lait. Il y a 2 moyens de se nourrir d'une vache, pour son lait ou pour sa viande. Le problème avec la viande, c'est qu'une fois qu'on a prélevé les morceaux de premier choix, puis les morceaux de second choix, et enfin le ragoût, c'est terminé. Si on se contente du lait, en revanche, on peut tenir ad vitam, à condition de donner quelque chose à manger à la vache de temps à autre.
Combien de temps penses-tu qu'il l'ait retenu enfermé ainsi, dans ce sous-sol ?
Demanda Roland. Je ne sais pas.
Mais elle se rappela la couche de poussière sur la bouteille d'acétylène, ne se la rappela que trop bien.
Une très longue période, en tout cas, qui a dû lui paraître une éternité.
Et la souffrance ?
Une torture. Même si ce pauvre gosse a dû endurer le martyre quand Dent de l'eau lui a arraché la langue, ça ne devait pas être grand-chose en comparaison de ce supplice émotionnel. Tu vois dans quel état il est.
Roland le voyait très clairement, et il voyait également autre chose.
On ne peut pas le faire sortir par une tempête pareille. Même en le recouvrant de 3 couches de vêtements, je suis sûr que ça pourrait le tuer.
Susanna acquiesça. Elle en était elle aussi convaincue. De ça et d'autre chose. Elle ne pouvait pas rester plus longtemps dans cette maison. C'est elle que ça risquait de tuer. Lorsqu'elle fit part de ce constat à Roland, il hocha la tête.
« Nous allons camper dans la grange là-bas jusqu'à la fin de la tempête. Il fera froid, mais j'y vois 2 avantages potentiels. Il se peut que Mordred vienne et qu'Insolente revienne. »
Tu les tuerais tous les deux ?
Si fait, si je le peux. Est-ce que ça te pose un problème ?
Elle y réfléchit un instant, puis fit non de la tête.
Très bien. Rassemblons ce que nous voulons emporter là-bas, car nous n'aurons pas de feu pendant les 2 jours à venir au moins. Peut-être même jusqu'à 4 jours.
8. Il se trouva qu'il fallut finalement 3 nuits et 2 jours au blizzard pour s'étouffer de rage. Est tombé. Le 2e jour, juste avant le crépuscule, Insolente surgit en boitant de la tornade de neige et Roland logea une balle dans sa tête aveugle. Mordred ne se décida pas à se montrer, bien que Susanna sentit nettement sa présence rampante, notamment la 2e nuit. Othé aussi la sentit peut-être, car il se tint à l'entrée de la grange, à aboyer comme un furieux dans la neige tourbillonnante. Pendant ce temps, Susanna découvrit bien plus de choses qu'elle s'y serait attendue au sujet de Patrick Danville. Il avait eu l'esprit salement endommagé par cette période de captivité, ce qui ne fut pas pour la surprendre. Ce qui en revanche l'a pris au dépourvu, c'est l'incroyable faculté de rétablissement du garçon. Elle se demanda si elle aurait même réussi à revenir après un calvaire pareil. Peut-être son talent l'y aida-t-il. Talent qu'elle avait vu de ses yeux dans le bureau de Seir. Dandelot avait donné à son prisonnier le strict minimum pour le maintenir en vie en termes de nourriture, et il lui avait volé ses émotions très régulièrement. 2 fois par semaine, voire 3, parfois jusqu'à 4. Chaque fois que Patrick était convaincu que la suivante le tuerait, il débarquait quelqu'un. Récemment, Patrick avait échappé au pire ravage de l'appétit de Dent de l'eau, car la compagnie avait été plus fréquente que jamais. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils étaient couchés dans le grenier à foin, Roland dit à Susanna que, selon lui, La plupart des victimes les plus récentes de Dents de l'eau avaient sans doute été des exilés fuyant le casse-roi russe ou la ville environnante. Susanna compatissait de bon cœur avec le raisonnement qu'avaient dû tenir ces réfugiés. « Le roi est parti. Alors tirons-nous d'ici tant qu'on le peut. Après tout, le Grand Rouge pourrait bien se mettre en tête de revenir. Or, il a carrément perdu la boule. Il est complètement siphonné. Il a un petit vélo dans la tête. » Il était parfois arrivé que Joe se présente sous sa forme de Dents de l'eau à son prisonnier, afin de manger la terreur qu'il inspirait au garçon. Mais ce qu'il voulait de sa vache à lait, c'était bien plus que de la terreur. Susanna avait l'intuition que les émotions avaient des goûts différents. Du porc un jour, du poulet le lendemain, et on termine sur du poisson. Patrick ne pouvait parler, mais il pouvait faire des gestes. Ils fîmes même bien plus que ça une fois que Roland leur eut montré la trouvaille bizarre qu'il avait faite dans l'office. Sur l'une des étagères les plus hautes, il avait déniché une pile de grands papiers à dessin portant la mention « Michel-Ange, parfait pour le fusain ». Il n'avait pas de fusain, mais à côté du papier se trouvait une poignée de crayons à papier Aberhart Faber 2, tout neuf, entouré d'un élastique. Ce qui rendait cette trouvaille particulièrement insolite, c'est le fait que quelqu'un, dans de l'eau sans doute, s'était évertué à couper soigneusement la petite gomme à l'extrémité de chacun des crayons. Elles étaient stockées dans un pot juste à côté, avec quelques trombones et un taille-crayon qui ressemblait au sifflet situé sous le ventre des quelques orizas qui lui restaient de Calabrin Sturgis. Lorsque Patrick avait vu les papiers, ses yeux d'habitude éteints s'étaient soudain illuminés et il avait tendu vers eux ses mains pleines de désir en produisant des jappements impatients. Roland s'était tourné vers Susanna qui avait haussé les épaules en disant « Voyons ce qu'il sait faire. J'en ai déjà une idée assez précise. Pas toi ?» Il se révéla qu'il savait faire beaucoup. Le talent de dessinateur de Patrick Danville était tout bonnement stupéfiant, et ses dessins lui procuraient la voix qui lui manquait. Il les produisait à un rythme soutenu et avec un plaisir évident. Il n'avait pas l'air du tout perturbé par leur précision, extrêmement pénible. L'un d'eux montrait Joe Collins en train de planter un couperet dans la nuque d'un visiteur trop confiant, les lèvres retroussées sur les babines en un immonde rictus de jouissance. À côté du point d'impact, le garçon avait écrit « Schla » et « Splash » en grosses lettres humoristiques. Au-dessus de la tête de Collins, il avait dessiné une bulle en forme de nuage contenant les mots « Prends ça, crétin !» Un autre dessin montrait Patrick lui-même, allongé au sol, réduit à l'impuissance totale par le rire, lequel était représenté avec une précision frappante. Pas besoin de « ha 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 » explicite au-dessus de sa tête à lui. Tandis que Collins se tenait penché sur lui, les deux mains sur les hanches, à le regarder. Patrick avait ensuite écarté vivement ce dessin-là pour s'empresser de griffonner une scène représentant Collins à genoux, une main accrochée aux cheveux de Patrick et la tête en face de la bouche béante et agonisante du jeune garçon. Avec dextérité et d'un seul mouvement très sûr, le crayon n'avait pas quitté le papier une seconde. Il avait exécuté un autre nuage de bande dessinée au-dessus de la tête du vieillard et y avait inscrit sept lettres entrecoupées de deux points d'exclamation. « Qu'est-ce que ça dit ?» avait demandé Roland.
« Miam. Bon. »
avait répondu Susanna d'une voix faiblarde et écœurée. Sans tenir compte du sujet des dessins, elle aurait pu le regarder œuvrer pendant des heures. C'est d'ailleurs ce qu'elle fit. La rapidité du crayon était fascinante et il ne vint à l'esprit d'aucun d'eux de donner à Patrick l'une des gommes amputées, car elle leur paraissait bien inutile. Car pour ce que Susanna pouvait en juger, ou bien il ne faisait jamais d'erreur, ou bien il trouvait le moyen de l'incorporer dans le dessin, le transformant, pourquoi chipoter, si les mots étaient les bons, en véritables petits morceaux de génie? Et les œuvres produites n'avaient rien d'esquisse, mais tenaient du tableau achevé. Elle savait ce dont Patrick, celui-ci ou un autre venu d'un autre monde le long du sentier du rayon, serai plus tard capable, avec la peinture, et le savoir lui donnait à la fois chaud au cœur et froid dans le dos. Qu'avait-il devant eux? Un Rembrandt sans langue? Il lui traversa l'esprit qu'il venait de croiser leur deuxième idiot de génie, le troisième, même si on comptait ôté au même titre que chimie. Une seule fois, elle s'interrogea sur son manque d'intérêt pour les gommes, et elle le plaça sur le compte de l'arrogance du génie. Pas une seule fois, il ne lui vint à l'esprit, ni à celui de Roland d'ailleurs, que cette version jeune de Patrick Danville ne savait peut-être pas encore qu'il existait même des gommes. 9. Près de la fin de la troisième nuit, Susanna se réveilla dans le grenier, regarda Patrick endormi près d'elle et descendit l'échelle. Roland était debout devant la porte de la grange, à fumer une cigarette en scrutant la nuit. La neige s'était arrêtée de tomber. Une lune tardive s'était levée, transformant le tapis de neige fraîche sur la route de la tour en paysage étincelant, dont la splendeur était nimbée de silence. L'air immobile était si froid qu'elle en sentait l'humidité lui craqueler l'intérieur du nez. Elle entendit au loin le bruit d'un moteur. Elle écouta attentivement et il lui sembla qu'il se rapprochait. Elle demanda à Roland s'il avait la moindre idée de ce que ça pouvait être ou signifier pour eux.
« À mon avis, c'est sans doute ce robot qu'il appelait Bill le Bègue, en train de déblayer la route après la tempête. Il a dû se mettre sur la tête un de ses engins à antenne, comme en avaient les loups. Tu te rappelles ?»
Elle se rappelait très bien et le lui dit.
« Il se peut qu'il ait prêté une allégeance particulière à Dandelot, » suggéra Roland. « Ça me paraît peu probable, mais ce ne serait pas la chose la plus étonnante que j'ai vue. » Tiens-toi prête avec un de tes plats s'il se montre qu'il voit rouge, et je me tiendrai prêt avec mon arme.
Mais tu n'y crois pas? Elle voulait être certaine à 100%.
Non, confirma Roland. Il se peut qu'il nous dépose, peut-être même à la tour même, sinon jusqu'aux limites des terres blanches. Ce serait une bonne chose, car le garçon est encore faible.
Ce qui souleva une question dans l'esprit de Susanna. On l'appelle le garçon parce qu'il a l'air d'un garçon. Quel âge crois-tu qu'il est?
Roland secoua la tête. Pas moins de 16 ou 17 ans, je pense. Mais il peut avoir jusqu'à 30 ans. Le temps était bizarre quand les rayons étaient attaqués, et il faisait des sauts et des raccourcis étranges. Je peux en témoigner moi-même.
Est-ce Stephen King qui l'a placé sur notre route?
« Je ne saurais le dire, mais il a tiré sa carte, c'est certain. »
Il marqua une pause.
« La tour est tellement proche. Tu la sens ?»
Elle la sentait en permanence. Parfois c'était une pulsation, parfois un chant, souvent les deux mêlés. Et ce polaroïde était toujours accroché au mur, dans la cabane dedans de l'eau. Voilà au moins qui ne faisait pas partie du glam. Chaque nuit, dans ses rêves, au moins une fois, elle voyait cette photographie de la tour se dressant au bout de son champ de roses, la tour en pierre noire de suie sur fond de ciel tourmenté, les nuages fusant aux quatre points cardinaux le long des deux rayons qui subsistaient. Elle savait ce que chantaient les voix. Comme Allah, comme Allah, comme à comme Allah. Mais elle n'avait pas le sentiment qu'elle chantait pour elle, à son intention. Non, grand non, jamais de la vie. C'était le chant de Roland, et de Roland seul. Mais elle s'était mise à espérer que ça ne signifiait pas nécessairement qu'elle allait mourir entre maintenant et la fin de sa quête. Car elle avait elle aussi ses rêves. 10. Moins d'une demi-heure après le lever du soleil, bien à l'est, disons tous grand merci, un véhicule orange. Un mélange de camions et de bulldozers apparut à l'horizon et se dirigea vers eux. Lentement mais sûrement, poussant devant lui une grande rafale de neige fraîche sur sa droite, qui alla encore surélever le remblai de ce côté. Susanna s'imagina que, lorsque l'engin atteindrait le croisement de la route de la tour et de la ronde, Bill le Bègue très vraisemblablement aux commandes de la pelleteuse, ferait un demi-tour et reprendrait le déblaiement dans l'autre sens. Peut-être qu'il avait pour habitude de faire une halte ici, non pas pour prendre un café, mais plutôt une bonne rasade d'huile de moteur. Cette idée la fit sourire. Autre chose la fit également sourire. Elle aperçut un haut-parleur monté sur le toit du véhicule, diffusant à plein régime une chanson rock qu'elle connaissait très bien. Enchantée, Susanna éclata de rire.
« California Sun, les Rivieras, oh, est-ce que ça n'est pas super ?»«
Si tu le dis, » acquiesça Roland, « veille bien à ton plat, c'est tout. »«
Tu peux compter là-dessus, »
dit-elle. Patrick les avait rejoints.
Comme toujours, depuis que Roland les avait découverts dans l'office, il se promenait avec un papier et un crayon. Il y écrivit un seul mot en majuscule qu'il tendit vers Susanna, sachant que Roland ne pourrait pas déchiffrer grand-chose de ce qu'il écrirait, même en grandes lettres. Le mot inscrit au bas de la grande feuille était « Bill ». Patrick l'avait placé sous un dessin incroyable doté, surmonté d'une bulle de dialogue de bande dessinée qui disait « Yark, yark ». Il avait barré cette dernière partie d'un trait désinvolte pour qu'elle comprenne que ce n'était pas ce qu'il voulait qu'elle regarde. Mais cette croix lui brisa en quelque sorte le cœur, car sous le couperet de ces deux lignes, c'était ôté tout craché. 11. La pelleteuse s'arrêta devant la cabane de Dandelot. Et bien que le moteur continuât de tourner, la musique s'était tue. Du siège conducteur se désencastra un robot à tête rutilante et de très grande taille, il mesurait au moins 2 mètres, qui ressemblait beaucoup à Nigel de la gare expérimentale de l'Arc 16 et à Andy de Calabrin Sturgis. Il arrondit ses bras de métal et alla poser les mains sur ses hanches d'une manière qui aurait rappelé à Eddie le Z6PO de George Lucas, si Eddie avait été là. Le robot se mit à tempêter d'une voix qui résonna sur les champs de neige.
« Bonjour, Joe, comment ça va? Saboum à Kokomo ?»
Roland sortit du couvert de la grange.
« Ah, Bill, » dit-il d'une voix douce. « Que tes journées soient longues et tes nuits plaisantes. »
Le robot se retourna. Ses yeux lancèrent des éclairs bleus vifs et Susanna prit ça pour de la surprise. Elle ne vit cependant aucune trace d'alarme et il ne semblait pas armé, mais elle avait déjà remarqué l'antenne qui saillait du milieu de son crâne, qui tournait et tournait dans la lumière vive du matin. Et elle se sentait en mesure de la trancher net au moyen d'un oriza en cas de nécessité.
« Cool, cool, ça roule !» aurait dit Eddie.
« Ah !» fit le robot.
« Un pipi, un pipeau !»
Il leva un bras doté non pas d'un coude, mais de 2, et se frappa violemment la tête. De son crâne monta un léger sifflement. « Vip !» Puis il réussit à achever.
« Un pistolero !»
Susanna éclata de rire. Elle ne put s'en empêcher. Ils avaient fait tout ce chemin pour se retrouver en face d'une version géante et électronique de Porcinet. That's all, folks.
J'avais entendu des rumeurs dans le pays,
dit le robot en ignorant l'intervention de la jeune femme.
Vous êtes Roland de Gilead?
C'est bien moi. Et toi?
William, D46541. M, robot d'entretien, nombreuses autres fonctions. Joe Collins m'appelle Bill Lebeg. Je dois avoir un circuit grillé quelque part là-dedans. J'aurais pu le réparer, mais il me l'a interdit. Et comme il est le seul humain dans les parages, où qu'il l'était...
Il s'interrompit. Susanna entendait clairement le cliquetis des relais quelque part à l'intérieur de la machine. Et ce n'est plus à Z6PO qu'elle se mit à penser, car elle ne l'avait jamais vu, mais à Robbie le robot dans Planète Interdite. Puis Bill Lebeg la toucha presque en portant son poing de métal à son front et en s'inclinant, mais pas vers elle ou Roland.
« Heil, Patrick Danville, fils de Sonia, c'est bon de vous voir dehors au grand air, oui, là ?»
Et Susanna entendit toute l'émotion dans la voix de Bill le Bègue. C'était une joie véritable, et il lui parut temps de baisser son plat.
12. Ils palabrèrent dans la cour. Bill serait volontiers entré dans la cabane, car il n'avait qu'un système olfactif rudimentaire. Les humes, mieux équipés quant à eux, avaient une conscience aiguë de la puanteur ambiante. En outre, il n'y faisait plus chaud, car la chaudière et le feu étaient éteints. Quoi qu'il en soit, la palabre ne prit pas longtemps. William, le robot d'entretien, nombreuses autres fonctions, avait considéré l'être qui se faisait appeler parfois Joe Collins comme son maître, car il n'y avait plus personne pour revendiquer ce rôle. En outre, Collins, dans de l'eau, possédait les codes nécessaires.
« Je n'ai pas su lui donner les codes quand il me les a demandés, » expliqua Bill le Bègue. « Mais ma programmation ne m'empêchait pas de lui fournir certains manuels contenant les informations dont il avait besoin. »«
La bureaucratie, quelle merveille !»
fit Susanna. Bill le Bègue leur raconta qu'il s'était tenu à l'écart de Joe aussi souvent et aussi longtemps qu'il l'avait pu, bien qu'il fût obligé de venir lorsqu'il fallait déblayer la route de la tour, ce qui faisait aussi partie de sa programmation, ainsi qu'une fois par mois pour le ravitaillement des boîtes de conserve essentiellement, en provenance de ce qu'il appelait la réserve fédérale, ou simplement la fédérale. Il aimait aussi venir voir Patrick, qui avait un jour donné à Bill un merveilleux portrait de lui, qu'il contemplait souvent et duquel il avait fait de nombreuses copies. Pourtant, à chaque fois qu'il venait, confia-t-il, il était certain de retrouver Patrick mort, tué et jeté négligemment dans les bois, quelque part à l'arrière, vers ce que Bill appelait les mauvaises, comme une vieille poubelle. Mais voilà qu'il le retrouvait vivant et libre, et qu'il s'en réjouissait.
« Car je ne suis pas dédé pour vous vu d'émotions rudimentaires, »
dit-il sur un ton qui rappela à Susanna celui de quelqu'un qui avoue un vice caché.
« As-tu besoin des mots de code pour accepter nos ordres ?»
demanda Roland.
« Oui, Sai, » répondit Bill le Bègue.
« Eh merde, »
marmonna Susanna. Il s'était retrouvé confronté au même problème avec Andy à Calabrin Sturgis.
Cependant, poursuivit Bill le Bègue, si vous aviez l'obligeance de me soumettre vos ordres et suggestions, il est certain que je serais
Il leva le bras et se tapa une nouvelle fois sur la tête. Le whip siffla de nouveau, non pas en provenance de sa bouche, mais de son torse, estima Susanna.
Heureux de vous satisfaire, conclut-il.
« Ma première suggestion, c'est que tu répares ce foutu bégaiement, »
dit Roland avant de se retourner, stupéfait. Patrick venait de s'affaler sur la neige, se tenant le ventre et laissant échapper de violents éclats de rire encore voilés. Otté dansait autour de lui en aboyant, mais Otté était inoffensif. Cette fois-ci, il n'y avait personne pour voler la joie de Patrick. Elle lui appartenait à lui seul, et aux rares élus qui pouvaient l'entendre.
13. Dans les bois, au-delà de l'intersection, vers ce que Bill appelait les mauvaises, un adolescent tremblant, drapé de peau puante et à moitié gratté, observait le quatuor planté devant la cabane dedans de l'eau.
« Mourez !» ruminait-il intérieurement. « Mourez ! Pourquoi vous ne me feriez pas tous plaisir en mourant une fois pour toutes ?»
Mais ils ne moururent pas, et le son joyeux de leur rire le transperçait comme autant de lames de couteau. Plus tard, quand ils se furent tous entassés dans la cabine de la pelleteuse de Bill, et qu'ils eurent pris le large, Mordred rampa jusqu'à la cabane. Il y resterait au moins 2 jours, bâfrant les boîtes de conserve de la réserve de Dents de l'eau, et mangeant aussi ailleurs ce qu'il regretterait sa vie entière. Il passa ses 2 jours à recouvrer des forces, car cette énorme tempête avait bien failli le tuer pour de bon.
Il pensait que c'était sa haine qui l'avait maintenu en vie, sa haine et rien d'autre. Ou peut-être était-ce la tour, car il la sentait lui aussi, cette pulsation, ce chant. Mais ce que Roland, Susanna et Patrick entendaient sur un mode majeur, Mordred l'entendait en mineur. Et là où ils entendaient une kyrielle de voix, lui n'en entendait qu'une. C'était la voix de son père rouge, l'appelant à lui, lui ordonnant de tuer le jeune muet et cette garce de Merlette et surtout le pistolero de Gilead, ce papa blanc négligent qu'il avait abandonné. Bien sûr, son papa rouge l'avait abandonné lui aussi, mais cette évidence ne traversa jamais l'esprit de Mordred. Et lorsque la tuerie serait terminée, promit la voix dans un murmure, il détruirait la tour sombre et régnerait Va-Adash ensemble pour l'éternité. Aussi Mordred mangea, car Mordred l'avait faim. Et Mordred dormit, car Mordred l'avait sommeil. Et lorsque Mordred se vêtit des vêtements chauds dans de l'eau, et qu'il s'engagea sur la route de la tour fraîchement déblayée, traînant derrière lui un guna bien fourni et une luge, des boîtes de conserve essentiellement. Il était devenu un jeune homme de 20 ans environ en apparence, grand et bien bâti, dans la pleine force de sa jeunesse, avec pour seul défaut la cicatrice au flanc laissée par la balle de Susanna et la tache rouge sang ornant son talon gauche. Ce talon, il se l'était promis, reposerait un jour sur la gorge de Roland. Un jour prochain.